Les sentiers du monde. Une émission proposée par Nadia Mendahman et Kadri Ara. Saïd Bouterfa.
Amis éditeurs, bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, au cours de notre rendez-vous hebdomadaire, donc, nous allons parler d'une ville qu'il faut connaître. Kadri Aga, bonsoir.
Bonsoir, Nadia.
Alors, parlez-nous de cette ville que vous connaissez bien.
Oui, enfin, il s'agit du Caire, la ville du Caire, la capitale de l'Égypte. Le Caire est la ville la plus prestigieuse du monde arabe, une des plus belles villes du monde, je dirais. Et c'est... Le Caire, c'est d'abord le Nil. Le Nil, le fleuve, qui est majestueux et qui arrive sur une largeur de plus de 800 mètres à l'entrée de la ville, qui lui doit tout, qui lui doit pratiquement son existence. Depuis à peu près plus de 6000 km, chaque jour, le Nil apporte l'éternité à ce pays. Il a fait son éternité, il a fait son histoire, il a fait sa civilisation. Né dans les montagnes de la Lune, c'est ainsi que Ptolémée, le savant, nommait le Rwenzori. Le Rwenzori, en une des langues ougandaises, veut dire le faiseur de pluie. Parce qu'il faudrait vous préciser que dans ce massif, l'eau tombe durant plus de 300 jours, sans discontinuer.
C'est beaucoup.
Oui, c'est parce que, si vous voulez, il y a beaucoup de torrents. Et c'est un massif enneigé. C'est pour ça qu'on l'appelle montagne de la Lune. C'est un massif enneigé, et c'est un climat subtropical, mais comme le mont fait plus de 5000 mètres, il y a des neiges éternelles. Alors tous ces torrents qui tombent vont aller rejoindre la Semliki, qui est une grosse rivière, en gros, presque un fleuve, lequel va rejoindre la Semliki, va rejoindre le lac Albert, anciennement appelé ainsi, et qui actuellement se fait appeler le lac Mobutu au Zaïr. Et à partir de là, le lac Mobutu constitue un grand déversoir sur le lac Victoria. Le lac Victoria, qui est, lui, le plus grand déversoir. C'est à partir du lac Victoria que toutes les eaux du Nil se mêlent et se constituent pour former ce qu'on va appeler plus tard le Nil Blanc. Le Nil Blanc, donc, qu'on appellera à partir de là le Nil Victoria. Alors, si vous voulez, il prend sa forme et part, il fait son chemin, il traverse tous ces pays africains jusqu'au Soudan. Alors, donc en traversant le Soudan qui est un pays arabe, le Nil blanc se fait appeler Bahr al-Abyad, qui veut dire mer, mer blanche, la mer blanche. Et il rejoint et il épouse à Khartoum, à Omdurman, entre Khartoum et Omdurman, il y a un pont d'ailleurs, c'est magnifique, il faut voir. Il rejoint donc le Nil bleu. Il y a les épousailles du Nil blanc et du Nil bleu, Bahr al-Abyad al-Azrakh, pardon.
Et pourquoi blanc et bleu ?
Eh bien, blanc, parce que, si vous voulez, blanc et bleu, c'est les coloris que prend, c'est la couleur de l'eau. La couleur de l'eau. L'eau est en fonction donc, des niveaux. Bon, bien sûr, en traversant une partie du désert soudanais, l'eau est contraste avec ce désert avec ce sable et a des profondeurs, beaucoup plus de profondeurs et des lumières, des couleurs. Blanc, parce qu'il traverse des régions où, très limoneuses. Il charrie tous les, si vous voulez, ces limons qui, plus tard, et qui ont toujours fait la richesse de l'Égypte. Enfin, je le dis plus tard, parce que dans sa progression, mais dans le temps, c'est ces limons qui ont fait la fortune, le bonheur du peuple égyptien, de l'Égypte. Alors, il a été, donc, si vous voulez, c'est autour de cette langue de terre verte, cette langue, que des jardins se sont constitués depuis la plus haute antiquité, et ça n'a pas changé. Les Égyptiens sont concentrés autour du Nil. Et cette concentration a créé, a donné une forme de civilisation, une des plus prestigieuses du monde depuis l'Antiquité, et même après, la civilisation égypto-arabe, si on veut dire, est une civilisation, nous allons voir plus tard, est une civilisation qui a quand même été déterminante pour ce qui est de l'évolution de ce qu'on appelle la nation arabe, de l'islam. Et tout ça, si vous voulez, est dû, bien sûr, par un système de corrélation, est dû à ce fleuve qui a fait la vie, qui a permis des concentrations, qui a permis l'aisance, qui a amené l'aisance. Et c'est avec l'aisance que, si vous voulez, les gens ont eu le loisir de raffiner, de faire des recherches, d'évoluer, de constituer ce qu'on appelle une civilisation.
Et oui, sans le Nil, l'Égypte n'aurait peut-être pas été...
Exactement, l'Égypte n'aurait pas été l'Égypte que nous connaissons, que nous connaissons. On n'aurait pas été le berceau de cette grande civilisation. Donc, si vous voulez, il a été le père nourricier de plusieurs centaines de millions d'hommes de tout temps. Il a été considéré comme un dieu dans la plus haute antiquité. Il a été considéré comme un dieu. Il a été vénéré. Et jusqu'à présent, il est vénéré. Il est vénéré, ce fleuve étant. Il est normal qu'on vénère un fleuve, une rivière, l'eau, qu'on considère que l'eau qui est nourricière, qui est créatrice de vie, il est normal qu'on lui doive une forme de respect.
Et dans un pays où règne une telle chaleur aussi.
Oui. Alors, si vous voulez, c'est ce fleuve qui arrive en triomphateur au Caire. Une ville moderne, c'est une ville qui s'est modernisée tout en gardant un aspect traditionnel, mais c'est une ville qui, avec ses grands hôtels le long du Nil, avec ses grandes sociétés, ses grands, la maison de la radio qui est très belle, qui ressemble à la maison de la radio française. Je dirais qu'elle est plus ancienne que l'autre, mais c'est une question de moi, pratiquement, qui est très belle, avec ses tours, avec cette verdure. Si vous voulez, les berges sont travaillées à l'extrême. Le Nil côtoie des villas sans arrêt, des villas somptueuses de notre âge, des immeubles en béton armé, je vous ai dit, de verre et d'acier. Et aussi, si vous voulez, une végétation luxuriante. Et parallèlement aussi, contrastant donc à cette végétation, des dépôts d'ordures, parce qu'il y a aussi la pauvreté. Le Caire est il faut le dire, une ville de contraste, comme beaucoup d'autres qu'on a vu, donc c'est une ville de contraste, avec une population dont le nombre s'est accru après la guerre des Six Jours en 67. Il faut vous dire que les populations de Suez, de Port Saïd, de Ismaïlia, Porto Fik, toutes ces villes qui sont à l'est du pays, donc l'Orient vert, les villes du front qu'on a appelées, alors toutes ces populations sont venus grossir le nombre des habitants du Caire, qui était donc du jour au lendemain, qui avait à peine 3 millions d'habitants, et du jour au lendemain s'est retrouvé avec 6 millions d'habitants, tout de suite en 67, elle a doublé pratiquement, puis maintenant elle est à plus de 10 millions, et si vous voulez, avec tous ces problèmes, ça cause ces facteurs de problèmes économiques, de problèmes sociaux, ou de problèmes qui se posent, les gens sont... Il y a beaucoup de sans-emploi et la misère en découle. Il y a des logements, les gens habitent n'importe où.
Comment peuvent vivre des gens sans-emploi? Comment peuvent-ils vivre?
Eh bien, ils essaient de se débrouiller. Ça crée, si vous voulez, une espèce de sous-prolétariat. Les gens essaient de vendre leurs services n'importe comment. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils vont en Égypte, ne retiennent que ça, de cet aspect de l'Égypte. Ils vous disent, oui, il y a la mendicité, les gens vous demandent le bachiche et tout. Il faut tenir compte de cet aspect, qui est terrible, bien sûr. Les gens ont eu à improviser. Et à un moment donné, les gens ont eu à habiter dans des cimetières, à loger. Bon, c'est comme à un moment donné, on a connu des bidonvilles ici. Bon, parce que les gens n'ayant pas les moyens, les gens qui sont venus, qui ont renfloué la capitale, qui sont venus renflouer en nombre, je précise, n'ayant pas de logement, habiter n'importe comment. Et puis, ça a bouleversé toutes les données. S'il y a dans une usine 1000 personnes, on ne peut pas en prévoir 2000 ni 3000. Alors, quelquefois, ces gens, n'ayant pas d'emploi, ils vont se livrer soit à des petites rapines, soit à la mendicité. Il y a une espèce de délinquance latente, mais qui n'est pas prononcée en Égypte. Il y a une misère qu'on remarque, a priori, parce que, donc, conséquente à ce facteur, qui est le facteur de la guerre. Mais je pense qu'il y a une dignité dans la misère, une espèce de fierté qui est très importante, qui se sent quand on connaît ce peuple, c'est très important. Alors, si vous voulez, le Caire reste aussi, malgré tout, avec tout ça, la ville des somptueuses demeures. Les demeures qu'on a vues dans certains films, les films égyptiens, les vieux films égyptiens, cela. Qui reste, ces demeures étaient les lieux de villégiature d'une bourgeoisie, de familles royales de l'époque, des administrateurs coloniaux, qui ont été hérités donc par une bourgeoisie montante avec l'avènement de la République. La République, si vous voulez, la prise du pouvoir par les officiers libres. L'Égypte a été une république qui a relevé quand même, d'une certaine manière, le défi, économique. L'Égypte était un État qui restait plus de 40 ans en état de guerre. Et ceci, tout le monde vous le dira, est un facteur de ralentissement. Il ne faut pas oublier qu'avant ça, même du temps de la monarchie, le pays était riche. Il était premier producteur mondial de coton. Maintenant, il n'y a plus de coton, les fibres synthétiques. Le pays a eu, sur le plan agricole, une autosuffisance, elle n'a jamais importé quoi que ce soit, bien au contraire.
Mais du temps de la monarchie, les richesses n'étaient pas équitablement réparties. Oui.
Non, certainement pas. Mais si vous voulez, il y avait des miettes substantielles qui retombaient. Il y avait une certaine aisance qui était recherchée et qui faisait, si vous voulez, la satisfaction des Occidentaux. Les Occidentaux allaient en villégiature en Égypte. Ça a toujours été, depuis le début du siècle, pratiquement, il était de, si vous voulez, de bon ton de dire d'avoir été passer ses vacances en Égypte. Surtout pour la gentry britannique, c'était bien. C'était très très bien. C'était un pays d'aisance, bien sûr, selon les moyens des gens. Alors, si vous voulez, certaines de ces demeures qui sont restées avec la République ont été transformées en hôtels, en palaces d'hôtels, des hôtels de grand standing. Et notamment, il y a un fameux hôtel qui s'appelle Omar Khayyam, du poète, du nom du poète, Omar Khayyam, qui est une splendeur en marbre blanc. C'était un ancien palais qui avait été mis à la disposition de l'impératrice Eugénie, l'impératrice, la femme de Napoléon III, qui était venue pour l'inauguration du canal de Suez. Je vous rappelle brièvement, le canal de Suez, on attribue la percée, et c'est vrai, du canal de Suez à Ferdinand de Lesseps.
Mais est-il vrai que la percée du canal a coûté la vie à des milliers de fellahs?
Je ne sais pas, je n'ai pas eu. Il y a eu des morts, mais je n'ai pas retenu ça, je ne sais pas.
Personnellement, certains voient justement la percée du canal comme une éventration pour l'Égypte.
Non, écoutez, le canal s'est fait en 1869. Hein. Bon, ce n'est pas une éventration de l'Égypte, c'est parce que l'Égypte a toujours eu ce canal. Depuis la plus haute antiquité des hommes, des anciens pharaons, avaient envisagé de rejoindre cette mer intérieure à la grande mer. Donc, ce qu'ils appelaient la mer intérieure, la mer rouge, le bras de la mer rouge, à la grande mer qui est la mer Méditerranée. Il y a eu un canal. Ferdinand de Lesseps n'a fait que reprendre ce canal qui existait dans l'Antiquité. Il n'a fait que l'agrandir, le moderniser. Mais le canal existait.
Les navires pouvaient passer?
Oui, oui, les navires de guerre égyptiens, à l'époque, passaient par là. Déjà contre la guerre des, Ramsès II, lorsqu'il a la bataille de Kadesh, n'a pu être remportée que parce qu'il a eu, justement, des navires qui sont allés par le littoral turc. Donc, de l'époque, Hittites ont pu aller le long du littoral turc parce qu'ils étaient partis. Il faut aussi vous rappeler que la capitale du temps du Moyen Empire, donc égyptien, ce n'était pas le Caire. Le Caire n'a pas été une capitale. Le Caire est devenu une capitale avec les Arabes. Mais la capitale, c'était Thèbes, actuellement Louxor, donc beaucoup plus au sud. Alors, et les navires partaient soit le long du fleuve, mais avec les cataractes, ils ne pouvaient pas. Alors, les gens traversaient cette langue de désert qui restait entre la mer rouge, enfin les armées, la mer rouge et Thèbes, Louxor, pour rejoindre les navires de guerre. Et ils remontaient ce canal qui existait.
Donc Ferdinand de Lesseps n'a fait qu'agrandir le canal.
Oui, il a repris à lui un canal qui existait déjà, qui s'est ensablé avec le temps, comme beaucoup de, si vous voulez, beaucoup d'ouvrages de l'Antiquité. Il n'a fait que le mettre à jour, ce canal. Alors, je vous dis, alors cet hôtel, ce building, qui est un ancien palais de marbre blanc sculpté, avait été mis à la disposition de l'impératrice Eugénie. Et c'est devenu maintenant un magnifique hôtel. Et il y a beaucoup d'hôtels qui sont comme ça, d'autres grands palaces. Et qui ont été édifiés le long du Nil. Tout ça le long du Nil. Le Nil Kérot. Pour abriter, maintenant, je parle de l'époque actuelle, pour abriter les nombreux touristes qui accourent, parce que la chose essentielle, pour les Égyptiens, économiquement, le tourisme est fondamental actuellement. Alors, les touristes viennent du monde entier pour voir un peu cette Égypte de maintenant, mais surtout pour aller faire un bain d'histoire, d'antiquité, donc retrouver l'Égypte antique. Bon, alors tout le monde arrive au Caire et il faut loger tout ce monde dans de grands palaces et ces palaces, si vous voulez, la vieille bourgeoisie ou l'actuelle petite bourgeoisie égyptienne, Kérot, fréquente ces palaces. Tous les soirs, vous avez les salons de ces hôtels qui sont remplis de dames qui viennent faire papoter, viennent faire la conversation, retrouver une telle.
C'est là où on se rencontre.
Oui, c'est les lieux de rencontre. Ils sortent, donc les kérotes vont dans les palaces.
Et on s'habille pour cela?
Une tenue de ville, non, c'est pas la grande. Mais on va surtout pour écouter, parce que dans chaque palace, il y a un pianiste. On va écouter, prendre le thé, et puis retrouver une telle. Je pense que celui qui était le plus prisé jusqu'il y a quelques années, du temps où où j'allais encore, c'était le Sémiramis. Le salon du Sémiramis, il y avait un pianiste extraordinaire. Les Égyptiens, dans l'Antiquité, habitaient à l'est du fleuve, qui était déterminant entre la vie et la mort. Sans ce fleuve, il n'y avait la mort. Avec ce fleuve, il y a la vie. D'un côté, la vie, de l'autre, la mort. Et le lieu de la mort était à l'Occident. L'Occident, la région où le soleil va se coucher. Donc, la mort, où le soleil va mourir. Il naît à l'est, c'est là que se fait la vie. Je vous avais déjà expliqué ça. Alors, il faudrait vous rappeler que dans la langue, il faudrait vous préciser, je m'excuse, que dans la langue secrète des Égyptiens antiques, donc de l'Égypte antique, mourir voulait dire accoster aussi. La signification de mourir était accosté, accosté vers le rivage, l'autre partie de l'existence, qui est la mort. Au pays des dieux, le pays où il fait bon vivre.
Alors pour l'Égyptien, lorsque l'on passe de vie à trépas, on se rend directement au pays où il fait bon vivre ?
Bien sûr, il y a un purgatoire. On ne va pas directement, on est jugé. Dans l'Égypte antique, hein, je parle préciser, parce que l'Égyptien actuel est musulman, et en grande majorité, il y a une minorité copte, mais même dans l'Égypte, pour cette minorité copte, il y a donc une règle religieuse que nous connaissons. Dans l'Égypte antique, il y avait un jugement, c'est-à-dire, il y avait, lorsque le mort arrivait, il était donc embaumé, comme selon la tradition, d'après la légende d'Osiris, qui a été découpé en plusieurs morceaux et était reconstitué par sa sœur et son épouse Isis et qui l'a momifié. Alors, donc, il y avait cette période de momification, la reconstitution de l'individu au moment du passage à la mort. Il se livrait à Anubis, qui l'amenait, Anubis et Thoth, qui l'amenait au grand jugement, le jour du grand jugement. Il fallait peser son âme. Si son âme avait péché, je vous l'avais déjà expliqué, si son âme avait péché, elle pesait beaucoup plus.
Lourde.
Oui, était beaucoup plus lourde que le poids d'une plume d'oie. Bon, alors c'est ça. Si la balance ne penchait pas donc vers la lourdeur, vers le poids, il allait le pays des dieux. Toute l'Égypte s'organise et se concentre autour des berges du Nil. Alors, au Caire, il stimule toute une espèce d'énergie, toute une sorte d'énergie. Tout un monde y vit à l'écart des grandes voies touristiques. Donc, il faudrait voir. Les touristes ne passent pas par là, dans certaines régions, dans certains coins du Caire. Et il y a une population qui, je vous ai dit, avec le sous-emploi et tout, qui arrive à se concentrer. Il y a même des gens qui vivent perpétuellement sur le Nil, dans l'eau, dans des barques. Des gens qui pêchent. Vous avez les horticulteurs aussi qui sont au bord du Nil. Les horticulteurs qui ont le secret de la rose blanche, la fameuse rose blanche égyptienne. C'est ce qui est assez impressionnant au Caire, dès que vous êtes dans le flot de la circulation, vous arrivez à un feu rouge, vous avez toujours 10 enfants qui viennent, au moins une dizaine d'enfants, des roses blanches, des bouquets de roses à vendre tout de suite, comme ça.
Comme à Corfou.
Oui, un peu comme à Corfou, comme dans beaucoup de villes. Mais les roses blanches du Caire sont exceptionnelles. Et il faudrait vous préciser aussi que l'Égypte est un grand producteur d'essence de parfum. La plupart des parfums fabriqués en France sont, si vous voulez, à peu près pour 70%
d'Égypte.
Les essences proviennent d'Égypte. Alors, vous avez donc en plus des horticulteurs, des ateliers de charpentiers maritimes qui font des barques, qui construisent des felouks aux grandes voiles qui sont majestueuses et qui ploient et se rabattent au passage sous un pont. donc une technique particulière, elle se plie au passage de ce pont. Vous avez des fermiers, des gens qui sur un bout de langue, une langue de terre comme ça, arrivent à faire de l'élevage et tout. Vous avez des propriétaires d'embarcations qui sont là tout le temps. Les femmes des quartiers pauvres qui, à toute heure de la journée, lavent la vaisselle, du linge. On arrive, on voit. On a l'impression que c'est toujours les mêmes femmes qui sont... Mais à toute heure de la journée, même la nuit, vous avez des gens qui sont là en train de laver.
Et ils lavent sans... leur linge. Alors elles lavent pour les autres.
Peut-être qu'elles lavent pour les autres aussi. Je n'ai jamais approfondi la chose, mais certainement, étant donné qu'il y a un sous-emploi, il y a des gens qui se proposent de laver pour d'autres. Mmh. C'est une façon comme une autre de gagner des sous. Vous avez des enfants qui lavent des buffles, qui sont nonchalants, il y a toujours des buffles, le jamous égyptien. Vous avez les pêcheurs. Alors les pêcheurs qui, dans les bras formés entre les îles de Gezire et de Roda, arrivent à tendre leur filet et, en faisant du bruit avec un tam-tam, repoussent le poisson sur ses filets. C'est comme ça qu'ils arrivent, ils arrivent à l'attraper. Alors, vous avez donc des felouquiers qui font des transports incessants en tous sens, qui partent, qui vont, qui viennent. Des familles entières qui vivent dans des embarcations, qui dorment, qui sont là sur ces embarcations. Ils accostent de temps en temps uniquement, donc, si vous voulez, pour faire certains échanges, certains trocs, mais ils sont là parce que la crise du logement.
Alors, ils pêchent le poisson la journée, ils dorment dans la barque la nuit.
Oui, même la nuit, ils pêchent. Ils pêchent sans arrêt. Il y en a qui pêchent parce que, bon, c'est pour gagner plus. On arrive à avoir du poisson, plus on vend, plus on a des sous. Et c'est très difficile. Alors, vous avez il n'y a pas que 2-3 personnes, c'est des familles entières qui vivent là. Vous avez les passeurs, donc vous avez les nettoyeurs du Nil. Ce qu'on appelle les nettoyeurs du Nil, c'est une société Kérote qui nettoie le Nil, qui ramasse à coups de gaffe bouts de bois pour ramasser, donc pour tirer. Qui ramasse la fleur du Nil, qui est une espèce de jonquille qui pousse là, en fleur d'eau.
Qui fleurit au printemps qui...
Peut-être, certainement. Mmh. Mais si elle ne fleurit pas, il y a son feuillage qui est tout le temps là. Donc, c'est une espèce de fleur aquatique. Vous avez les barges et les péniches qui traversent toujours la mégapole qu'est le Caire. Alors, il y a également les vieux steamers qui sont transformés en casinos. Les casinos, il faut vous préciser, ce sont les bars. Ce sont des bars où il y a des spectacles aussi, qu'on appelle, c'est le nom qu'on donne. Ces steamers-là sont des vestiges d'une époque désormais révolue. Vous avez aussi les dahabiyettes. Les dahabiyettes, ce sont des maisons flottantes, qui sont très très belles d'ailleurs, avec des rangées de petites fenêtres qui donnent sur des vérandas en bois ouvragé. C'est très beau. Elles sont pour la plupart du siècle dernier, du siècle précédent, 19e siècle. Elles constituaient à l'époque des résidences secondaires ou peut-être aussi des résidences principales pour l'aristocratie ou la grande bourgeoisie d'avant la Révolution. Actuellement, elles regorgent des familles nombreuses, de sans-abri, toute une série, avec leur émouvante beauté qui pourrit parce qu'elles ne sont pas entretenues. Elles pourrit lentement sur place, sur les rives d'Mbaba. Mbaba, c'est au nord-ouest, c'est un endroit au nord-ouest de Zamalek, qui est le quartier, précisé, le quartier de résidence par excellence. C'est le quartier des ambassades, le quartier des grands hôtels, les grandes demeures bourgeoises qui rôdent.
Et en ce qui concerne les beaux-arts, enfin les constructions, les musées et autres?
Eh bien, le Caire, c'est surtout, comme je vous ai parlé d'une civilisation, civilisation ancienne, une grande civilisation, le Caire, c'est surtout une ville-musée. C'est une ville-musée, elle tient une place considérable dans l'histoire de l'art. Vous savez, outre le célèbre musée des antiquités de Midan Tahrir, enfin, ce fameux musée, le musée du Caire, que le monde entier connaît, où il y a toute une série, donc si vous voulez, où il y a profusion des œuvres du passé qui témoignent de cette antiquité, à tel point que c'est fatigant de le visiter parce que il est trop petit pour ce qu'il contient. Donc outre ce musée, il y a de nombreux conservatoires. Ça va depuis le conservatoire du papier, l'île au papyrus, tout ce qui remonte depuis la plus haute antiquité, le musée du coton, il y a toutes sortes de choses. Et l'île au papyrus, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un ingénieur en retraite qui a une trentaine d'années a décidé comme ça de replanter des papyrus dans une île qu'on appelle l'île Jacob. L'île Jacob, et ça a donné une espèce de floraison extraordinaire. C'est très très beau, il y a toutes sortes de papyrus comme ça. Et d'ailleurs, il faudra vous préciser que l'Égyptien est d'abord, avant tout, un peuple d'horticulteurs. Les jardins égyptiens sont splendides, ils sont merveilleux.
Ils aiment les fleurs.
Ils aiment les fleurs. Alors, c'est aussi le Caire, et c'est, pour le monde arabe, le monde musulman, c'est la ville, par excellence, de l'art arabe. Vous savez, le comité de conservation des monuments arabes, fondé au début du siècle, a classé plus de 400 édifices dans la ville. Et c'est énorme. C'est énorme, 400 édifices uniquement dans une ville. Donc, édifices arabes, je précise. Alors, vous savez, le Caire a été un foyer de schisme. Le foyer du schisme de l'islam. Et a longtemps, le Caire a longtemps rivalisé avec les deux pôles de l'islam qui sont Bagdad à l'est et Cordoue à l'ouest, du temps de la splendeur de l'islam, de la splendeur du monde arabe. Elle fut successivement la capitale donc des Toulonides, qui, si vous voulez, à la fin du 9e siècle, la rendirent indépendante des califats, du califat donc de Bagdad. Et puis après les Toulonides, vous avez eu les Fatimides. Les Fatimides qui, dès le 10e, du 10e au 12e siècle, ont régné donc, sur l'Égypte. Les Fatimides, la dynastie a été fondée au 10e siècle, en 969-70, par Ubaydallah, et qui en fit le siège de sa dynastie, le Caire. Et il se fit aussi le siège de l'anti-califat, c'est-à-dire par opposition au calife de Bagdad. Alors, chiites, les Fatimides ont donné une impulsion nouvelle qui se traduisit dans l'art. Ils ont été féconds, très très féconds. Ils furent les initiateurs d'une civilisation, une civilisation très raffinée. Donc, avec les monuments, les édifices que nous trouvons au Caire, qui ont été construits, qui ont été édifiés à cette époque, à l'époque fatimide, on sent de la recherche, un raffinement très poussé. Loin, je crois que c'est, à mon sens, la période la plus faste, la plus belle, la plus affinée dans l'art. Dans l'expression de cet art religieux de l'islam. Alors, ils donnèrent leur nom à un développement intense d'art architectural. Chaque mosquée a pris le nom d'un sultan ou d'un général. Chacun construisait, payait pour édifier quelque chose de beau qui porte son nom. Il y avait cette notion de, si vous voulez, avec la pérennité, une notion de pérennité, mais dans une expression, le témoignage devait se faire par quelque chose d'essentiel, quelque chose de beau, quelque chose de grand, qui est dédié à l'humanité et non pas à un individu. C'était très beau, c'est assez, si vous voulez, c'est assez noble dans l'attitude. Il y a eu, alors, de nombreuses mosquées, très nombreuses mosquées, et notamment, il y a eu celle d'Al-Azhar, Al-Azhar, celle de l'Hakim, celle de l'Ahmar, qui sont les plus belles actuellement, les plus importantes. Al-Giyushi, Salah Talai, il y a l'oratoire qui est très beau de Sayyida Ruqayya, qui est une des filles d'Ali. Tous ces édifices suscitent l'admiration. La mosquée de l'Azhar, qui est la plus célèbre, qui est la plus connue, qui est le haut lieu de la culture de la civilisation arabe, dans l'université, communément appelée pratiquement la Sorbonne du monde arabe. Passer par l'Azhar, c'est d'avoir fait la plus grande école qu'il y a dans le monde arabe, la plus grande université. Ça vous donne des lettres de noblesse, avoir fait l'Azhar. Elle a été créée en 970, donc tout de suite au moment de la naissance de la dynastie fatimide. La bâtisse principale reçut donc de nombreuses adjonctions après, bien sûr, avec les autres sultans qui sont arrivés. C'est un immense assemblage d'arceaux et de colonnes de styles divers, c'est ce qui fait d'elle un musée. Le musée des formes musulmanes, puisqu'il y a eu à différents moments des styles, des apports différents. Donc, si vous voulez, des apports, chacun ayant apporté sa manière d'exprimer, de s'exprimer dans l'art. Et ce sont, et ainsi, elle est, d'une certaine manière, l'histoire de l'architecture fatimide, l'architecture musulmane de l'Égypte à partir des fatimides.
On retrouve tout.
On retrouve pratiquement toute une série de styles. Au début, elle était destinée à devenir une école religieuse, un grand séminaire. Ce monument est devenu, donc cet édifice est devenu, il est le résultat des efforts combinés de plusieurs générations de princes. Il reçut, si vous voulez, cet édifice reçut de notables modifications importées de l'Afrique maghrébine, notamment. On retrouve des tas de choses. Elle se trouve à l'entrée, il faut la situer donc à l'entrée du bazar, Khan al-Khalil, le bazar qui a une atmosphère, qui a une vie extraordinaire, une vie chaleureuse. Vers le bazar, tous les touristes passent au bazar, tous les Égyptiens passent au bazar, du Caire, où on trouve pratiquement tout.
On trouve tout.
On trouve tout. Il y a une atmosphère fantastique. Alors, si vous voulez, bordant ce bazar se trouve dans ce qu'on appelle la cité musulmane, la cité islamique. Et autour de ce bazar, vous avez de très nombreux édifices. Vous avez de nombreux édifices, tous ces édifices musulmans, de l'art musulman. Et notamment la mosquée de l'Azhar, qui est mitoyenne. Vous avez aussi la mosquée de l'Hakim. Vous avez la mosquée de l'Ahmar, qui est aussi au du XIIe siècle, au début 1125, je crois. Oui. De petites dimensions dans la précieuse décoration des rosaces, toute une série de rosaces un peu partout. Avait une grande importance archéologique et artistique donc pour cette époque parce que c'est la première fois qu'on utilisait des rosaces dans l'art arabe, l'art architectural arabe. Les édifices fatimides ont presque tous une forme octogonale dont l'origine symbolique est et reste avant tout nord-africaine. Il ne faut pas oublier que les fatimides sont venus ici avant de retourner en Égypte. Et il y a une influence qui s'est traduite dans cette expression artistique. La forme octogonale qu'on retrouve dans ces étoiles à 8 branches est d'expression nord-africaine, maghrébine. Mais n'est pas une expression arabe, donc orientale.
Oui. Alors c'est à leur retour qu'ils ont construit des édifices de ce genre.
De ce genre, donc l'influence. L'Algérie a été fatimide. Après les Fatimides, aux Fatimides succédèrent les Ayyoubides. Les Ayyoubides qui sont, dont, si vous voulez, la dynastie a été faite, établie par Salah ad-Din al-Ayyoubi, le fameux Saladin, le grand Saladin, donc au XIIe siècle. Les Ayyoubides sont, si vous voulez, n'ont pas laissé de nombreux édifices. C'est étrange que cela puisse paraître parce que Salah ad-Din Saladin était un homme tel que le fameux Richard Cœur de Lion parle de lui, rapporte de lui. Le fameux Richard Cœur de Lion, les croisades rappelaient la noblesse de ce Saladin, ce grand Saladin. Je profite d'une parenthèse pour vous dire que à Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, a eu pour la première fois au cours d'une table, c'est la première fois que l'Occident a eu ce genre d'instrument, lorsqu'il a été invité à la table de Saladin, a eu les couverts que nous avons, non le couteau et la fourchette, alors que l'Occident n'en avait jamais
utilisé. Ça n'existait pas.
Nulle part au monde. Ça n'existait
uniquement en Égypte.
Que chez les Arabes, à l'époque. parce que justement il était dit que c'était plus raffiné de manger au lieu de manger avec les doigts d'une manière animale. Les Arabes ont poussé le raffinement à cette époque très très loin, très très loin, et l'Occident en a hérité dans une certaine manière. Alors ils n'ont pas, c'est un paradoxe, surtout cette époque. Les Ayyoubites étaient surtout des militaires. Ils ont concentré, parce qu'ils étaient divisés en plusieurs principautés. Le royaume Ayyoubite était très divisé, très morcelé. Alors, ils n'ont pas eu à unifier une forme d'art, une forme d'expression. Ils n'ont pas fait des édifices qui ont défié le temps, qui sont restés très longtemps. Alors, il y a, on retrouve là-bas au Caire, le mausolée de Sedet, qui veut dire en arabe la dame Taliba, qui est au XIIIe siècle, début du XIIIe siècle, situé sur la voie qui mène au sanctuaire de l'imam Shafi'i, qui est très vénéré au Caire.
À quelle époque a pris fin la dynastie des Ayyoubides?
Eh bien, la dynastie des Ayyoubides prit fin avec Melik Saleh, vers le milieu du XIIIe siècle, en 1249 pour être plus précis. Et le mausolée qui abrite la dépouille donc du roi Melik Saleh, est le dernier testament de leur règne. C'est à partir de là, il n'y a plus rien eu. Ils n'ont rien fait. Alors le régenda qui lui succéda, parce qu'il y a une année de balbutiement, il n'a pas laissé d'héritier, il y a eu un régendat. Et durant ce régendat, donc, si vous voulez, il y a eu toute une période de troubles. La milice d'esclaves qu'il avait constituée, lui, des esclaves, qui sont les Mamelouks, Mamelouk veut dire gouverner, esclaves, turcs et georgiens, s'est emparé cette milice que lui avait constituée, une garde personnelle, une garde prétorienne qu'il avait, s'est emparée du pouvoir. Elle s'est emparée du pouvoir à la suite donc de ces troubles, elle provoque un coup d'État, et s'est emparée du pouvoir. Et, si vous voulez, tout de suite un an après, en 1250, et elle a constitué une longue dynastie. Vous avez le premier sultan, ce premier mamelouk qui s'est intronisé personnellement, et Melik Muaz Aybek. Muaz Aybek. Donc, vous voyez. À partir de lui, a constitué une très longue dynastie. Ça a été la plus longue dynastie. Et cette dynastie, qui est une dynastie donc de prétoriens au départ, de militaires, de gens venus d'ailleurs, a paradoxalement donné de nombreux témoignages d'art, de culture, de passé, de son passé, de sa période de règne. L'énumération peut être longue de tous les monuments et édifices de la période de Mamelouk. Mais je me permettrai de citer encore le collège du sultan Hassan, qui est le point culminant de cet art, de l'art mamelouk. Il est majestueux, sa décoration est sobre, mais on a fait justement remarquer qu'elle a une saveur si particulière qu'on ne pourrait la confondre avec le décor d'un tout autre édifice, de n'importe lequel. Il est d'une somptueuse beauté. Toutes les mosquées et mausolées se trouvent dans ce qu'on appelle la cité islamique, donc à l'endroit où devait se créer la vie musulmane, jouxtant, si vous voulez, la cité chrétienne, la cité antique de Fostat, qui est la vieille cité, parce que le Caire a été créé par les Arabes, donc en 970, avec la création de l'Azhar pratiquement. Mmh. Et il y a eu tous ces constitués. La cité du Caire vient de fêter, il y a près de 15 ans, qu'elle a fêté son millénaire, le Caire que nous connaissons. Et donc, elle est née d'un coup de baguette magique pratiquement. Le soir, d'ailleurs, c'est précisé, vous arrivez au Caire, on vous le précise, le soir du 6 juillet 1969.
On l'appelle la cité magique, c'est ça?
Oui, c'est une cité magique, entièrement magique. Le chef de l'armée Fatimé Johar, arrivant à Gizeh, franchissant le Nil, vint camper dans la plaine qui s'étendait donc au nord de l'ancienne capitale, Fostat, au point précis où devait s'élever la nouvelle ville. Dessinée sous sa surveillance, cette cité fut construite d'un seul jet, sur un emplacement désertique. Alors, la nouvelle cité s'étendait du minaret sud de la mosquée d'Al-Hakim à la porte Zouaïla, Beb Zouaïla, dont on a parlé. Ses limites orientales correspondaient à l'époque aux lisières actuelles du Caire. Le palais royal fut construit en même temps que la ville. Et El-Azhar fut achevé donc en 972. Elle était commencée en 970. Et la ville naquit ainsi. Et par ces tendances hétérodoxes, allait être un centre névralgique, le point de mire de la rancune aussi sunnite, parce que c'est les fatimites chiites qui l'ont créé. Les sultans mamelouks ont fait comme les pharaons, ils ont construit de leur vivant le tombeau, ils ont préparé leur mort, ils ont construit leur tombeau dans cette fameuse cité qui est la cité des morts, les tombeaux des califes. Les anciens égyptiens, il faut vous le dire, ils sont aussi présents dans la capitale de l'Égypte, l'Égypte antique, notamment par les fameuses pyramides de Gizeh, les trois pyramides de Khéphren, Khéops et Mykérinos, qui sont, je vous le rappelle, on avait déjà parlé, de la plus haute antiquité égyptienne, c'est-à-dire de l'ancien empire. Plus de 40 siècles, non, comme avait dit Napoléon, mais il y a une petite erreur, il remonte à un peu plus de 3000 ans avant le christianisme, donc près de 50 siècles, plus de 50 siècles. Alors, vous avez aussi partout dans beaucoup d'artères, dans beaucoup de places, les Égyptiens ont placé des sculptures de l'antiquité égyptienne. Devant la gare du Caire, sur l'avenue Ramsès, il y a une colossale statue de Ramsès, Ramsès II le Grand, parce qu'il y a eu plusieurs Ramsès. Ramsès II le Grand. Vous avez des statues du dieu Khom, qui a une tête de bélier, qu'on retrouve un peu partout, des sphinx, qu'on retrouve un peu partout, Horus, un peu partout. Donc il y a toute une série de vestiges qui sont là.
Alors on peut reconstituer l'histoire de l'Égypte.
Toute l'histoire de l'Égypte est concentrée autour du Caire, et on peut la reconstituer. Vous avez aussi, donc après eux, vous avez ce qui a été le copte qui est le chrétien égyptien, qui est l'aube de la chrétienté. Le copte, je vous le précise, est un monophysite, c'est-à-dire c'est un chrétien qui ne croit pas en la Trinité. Il ne considère pas, c'est de là qu'il se rapproche un peu aux musulmans, il ne considère pas que Dieu a trois personnalités différentes. Mmh. Dieu est un. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mmh. Non, le copte considère que Dieu est unique et indivisible. Il est un et multiple à la fois, mais il n'est qu'un.
Mais il le considère quand même comme un pur esprit.
Oui, un pur esprit, uniquement comme un pur esprit. Il se rapproche de beaucoup de la conception musulmane. Alors, les coptes, vous avez l'art du Fayoum. Le Fayoum, qui est les balbutiements de la chrétienté, ont continué à mettre les morts dans un sarcophage, avec le visage peint, qui était pratiquement la photographie du mort, pratiquement. Au début, puis vous avez la période byzantine. Et vous avez, il y a ce qu'il y a au Caire, il y a la fameuse mosquée de Saint-Serge, l'église de la basilique Saint-Serge, qui est pour la chrétienté quelque chose de très important. C'est dans Fostat, la ville ancienne. C'est la basilique où, dit-on, vous montre un puits, le Christ a été baptisé pour la première fois avant que Saint Jean-Baptiste, Yahya pour les Arabes, l'ait baptisé donc, en Palestine. Il y a eu cette église devant lorsque la sainte famille Marie et Joseph ont fui Hérode, l'exode devant Hérode, sont allés en Égypte, et là le bébé Jésus a été baptisé dans cette église, dans cette basilique, ce lieu, enfin dans ce puits qui est devenu plus tard une basilique.
Et l'Égypte est le pays de la tolérance.
C'est le pays de la tolérance. C'est vraiment l'Égyptien est très tolérant, est un être qui est très ouvert à toute forme d'expression. C'est un être doux par ses manifestations. J'ai rarement vu, durant de fréquents séjours que j'ai fait en Égypte, j'ai rarement vu de bagarres en Égypte. Les gens, si vous voulez, s'affrontent par le verbe, par la gestuelle.
Mmh.
C'est une sorte de d'expression culturelle. C'est une expression. Alors, bon, et puis, pour ne pas les oublier aussi, il y a la plus ancienne mosquée dans cette partie, à la limite de Fosdat, qui est la mosquée de Amr, qui a été fondée en 640, au moment, tout de suite après la pénétration de l'islam, donc en Égypte. En 640. Et puis, bon, bien sûr, il y a aussi la mosquée d'Ibn Toulon, qui est la plus célèbre et une des plus anciennes de la cité islamique, qui a été établie en 879. Voilà. Que vous dire encore de l'Égypte ? L'Égypte fut en tout temps, avec Nasser, une terre d'exil, une terre d'accueil, une terre de tolérance, une terre où tout le monde pouvait s'exprimer. Et elle l'est jusqu'à présent. Le pays où la bonté est inhérente à la beauté. Ce fut, je vous ai dit, le pays de la villégiature de l'esprit, qui dirait. C'est, et jusque la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens venaient ici. Appauvri, donc, je vous ai expliqué, par la guerre, tout ça. Le peuple égyptien continue quand même à témoigner, je ne sais pas, peut-être pour nous, avec des yeux d'étrangers, il nous paraît heureux, mais je n'en sais rien. Mais le peuple égyptien a l'air, surtout le peuple kérote plutôt, a l'air heureux de sa condition.
Il est très volubile.
Oui. Vous savez, il est volubile. Partout au Caire, d'ailleurs, on vous dira ce qui est magnifique, on vous montrera. Ils sont fiers de leur histoire, ils sont fiers de leur passé, ils sont fiers de tout, ils vous montrent tout. Ils vous amènent, lorsque vous avez vu toutes sortes d'édifices, ils disent, venez voir telle fontaine. Et c'est vrai, il y en a de merveilleuses, de belles fontaines. Il y a de belles fontaines qui remontent, si vous voulez, à la plus haute antiquité. Il en existe à Mena, la région de Mena House, donc près de Gizeh, jusque récente, même maintenant, qui a été édifiée des espèces de grandes fontaines à jets d'eau. Il faut, nous dit un écrivain français contemporain, mesurer la grandeur d'un peuple à ce qu'il fait pour l'eau. Cette réflexion rejoint une tradition du prophète de l'islam, qui est sculptée sur une des fontaines du Caire. Alors, dans le hadith, comment demander au prophète quel était l'acte le plus méritoire ? Il répondit, donner de l'eau à boire. La fontaine, les édifices religieux, publics, les échoppes, tout concourt à faire du Caire une belle ville. À mon sens, une des plus belles villes du monde. Déjà, un contemporain des Mamelouks, le grand Ibn Khaldoun, affirmait « Celui qui n'a pas vu le Caire ne connaît pas la grandeur de l'islamisme. C'est la métropole de l'univers, le jardin du monde, la fourmilière de l'espèce humaine, le portique de l'islamisme, le trône de la royauté. C'est une ville embellie de châteaux et de palais, ornée de couvents de derviches et de collèges, éclairé par les lunes et les étoiles de l'érudition. »